Vincent Monadet, bonsoir. Bonsoir à toutes
Bonsoir.
et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir évidemment le président du Centre national du livre à la librairie Mola. C'était évidemment une institution qui nous est chère et puis on est surtout ravis d'avoir un ancien libraire à ce micro. Ce n'est pas si fréquent que ce soit les libraires qui soient interrogés, enfin les anciens libraires, même si je pense, et ce livre en est la preuve, que quand on a été libraire, on ne cesse jamais vraiment de l'être. Et que la question de l'espèce de passion qui nous anime de faire passer les livres et la lecture est une passion qui ne nous quitte pas. Alors, donc, dans ce livre que vous venez de faire paraître aux éditions Payot, « Comment faire lire les hommes de votre vie », vous tentez non pas tant de répondre à une question, même si on va commencer par celle-là, que de déployer un certain nombre de stratagèmes, justement pour sortir de cette aporie qui est pourquoi est-ce que les hommes ne lisent pas. C'est qu'un constat, alors qui n'est pas vrai dans l'absolu, on a trouvé des hommes qui lisent, mais en tant que libraire, on fait effectivement ce constat, et c'est encore plus vrai, je pense, et je pense que vous en parlerez pour la littérature, que la majorité des lecteurs sont des lectrices, et que le lecteur de littérature, s'il existe, n'est pas du tout un animal majoritaire. Est-ce que, alors vous... Au Centre national du livre, vous dirigez de nombreuses études, et je pense que ça vient un peu de là, ce constat. Est-ce que vous avez une explication à ce mystère qui est que les hommes n'osent pénétrer dans l'antre du mal, comme vous nommez les librairies, et qui fait que, surtout, je pense que vous l'évoquerez, il y a une question d'âge. Quand on va au rayon jeunesse, je pense que les choses sont assez bien partagées. Et puis, arrive un âge où ils s'évanouissent et on ne sait pas ce qu'ils font.
Non, il n'y a aucune explication. Je suis désolé. Hein. Il y a un décroché. En fait, tout enfant qui est mis face à un livre et qui n'est pas lecteur, c'est-à-dire l'enfant avant d'apprendre à lire, lit, adore les livres. Les feuillettes, il les prend. Il n'y a pas d'exemple de rejet d'un enfant spontané du livre. Quand la lecture rentre en jeu, il y a des enfants qui commencent déjà à décrocher tôt parce qu'ils sont en échec de lecture. Mais c'est assez partagé entre filles et garçons. En revanche, chez les moyens lecteurs et une partie des grands lecteurs, il y a un décroché à 13-14 ans. Et là, c'est essentiellement les garçons. Et on ne les récupère en général pas. Donc ce qui fait que le profil type du grand lecteur, c'est une femme de plus de 45 ans, plutôt CSP+, pour 7 personnes sur 10. C'est-à-dire que c'est 7 femmes sur 10 qui sont grandes lectrices.
Avec ce que vous évoquiez dans un autre entretien, comme vous le dites, elle a plus de 45 ans.
Oui, parce qu'elle a élevé ses enfants, elle a arrêté de faire deux jours en une, parce que c'est un peu la vérité. Elle a plus de temps pour lire, la lecture a toujours été sa passion. Il y a un moment où elle l'a mis un peu en stand-by, parce que par manque de temps. Et d'un seul coup, elle a à nouveau du temps. Les horribles machins qu'on appelle des enfants sont plus grands, et donc ils demandent beaucoup moins de temps. Voire même ils ne veulent surtout plus qu'on leur en consacre, et donc à partir de là elle a du temps pour reprendre la lecture. Et c'est mais les femmes n'arrêtent jamais de lire, les femmes lectrices n'arrêtent jamais de lire, simplement le manque de temps font qu'elles lisent moins pendant une période, alors que les hommes lecteurs qui arrêtent de lire arrêtent vraiment de lire. Après ils vont lire des journaux, beaucoup, éventuellement de l'histoire et des essais. Et la bande dessinée, qui reste un genre majoritairement masculin, mais pour encore 10-15 ans. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien, il suffit d'aller à n'importe quel rayon bande dessinée et de voir l'offre qu'il y a destinée à des jeunes filles qui sont en train de se former comme lectrices, que ce soit Lou, que ce soit Les Nombrils, que ce soit des séries comme ça, elles ont été accrochées, elles ont été mordues, elles seront lectrices de bande dessinée. Et donc ça va s'inverser, ça va s'étioler. Ça a commencé avec le manga. Le lectorat manga est majoritairement féminin aujourd'hui. Ce qui sidère, mais c'est la vérité. Parce que les gamines se sont emparées du manga, et elles sont restées des lectrices de manga. Et même sur le rayon BD, qui était vraiment quelque chose de très masculin, on commence à voir le basculement se faire. Donc il restera les livres très, très, très rébarbatifs, pour ne pas dire plus. Et puis aussi, tout ce qui est manuel destiné... Enfin, livre destiné à l'exercice d'une profession.
Oui, tout ce qui est livre technique.
Exactement. Livre... Ouais.
Avec même, et on l'observe même, alors on y reviendra quand on abordera les mauvais genres, mais même les genres, moi je suis par exemple frappé sur la science-fiction ou la fantasy, la science-fiction qui a longtemps aussi été un genre à lectorat plutôt masculin, et d'ailleurs même à une époque articulée avec les sciences humaines, où le polar sont des genres dans lesquels le lectorat, là aussi, et en même temps que le lectorat change, c'est aussi l'offre qui change. C'est-à-dire que la science-fiction tire beaucoup vers la fantasy, le polar beaucoup vers le thriller, et sans savoir quel est l'œuf et la poule de l'offre ou de la demande, mais cette offre, effectivement, est du coup maintenant majoritairement lue par un lectorat féminin.
Non, mais c'est clairement la demande qui est en train de transformer le genre en profondeur. C'est-à-dire qu'il y avait toujours eu un lectorat féminin de polar, mais c'était ce qu'on appelle le roman policier à énigmes, c'est-à-dire les reines du crime, en fait. Agatha Christie, Elizabeth George, Ruth Rendell, Highsmith, voilà. Et le reste du genre était archi-dominé par le roman noir, dit hard-boiled, qui était du roman testostéroné pour homme. Donc l'archétype, c'est le détective privé qui se prend une rouste monumentale le soir à 18h, rentre chez lui en miettes, boit deux whisky, prend une douche et le lendemain il y est reparti. Ça, c'est en train de voler en éclats. Le dernier énorme succès, c'est La fille du train. La fille du train, c'est un lectorat très essentiellement féminin. Et pareil pour la science-fiction et la fantasy, parce que la science-fiction et la fantasy, c'est pas tout à fait la même chose. L'explosion du genre, c'est Harry Potter. C'est-à-dire que Harry Potter a formé des générations de gamines à lire de la fantasy. Et il a totalement changé. Il a profondément transformé le genre, parce que quand on lit de la fantasy dite destinée pour les enfants et qu'on devient un lecteur de fantasy, on évolue vers une lecture de fantasy dite destinée aux adultes, qui existait déjà. Il y avait Zimmer Bradley, il y avait Anne Rice, voilà, mais qui devient le genre majoritaire. Alors qu'en revanche, la science-fiction très technoïde, steampunk, geek, a du plomb dans l'aile, plus de mal.
Oui, ou tout le mouvement de ce qu'on a appelé la speculative fiction.
Exactement.
Ou Kadic, enfin tout le, on va dire cet âge d'or, années 60-70, ouais. On voit bien, on peine plus à trouver le lectorat. Alors peut-être avant on va un peu évoquer les différents chapitres. L'idée n'est pas de faire une discussion trop technique sur pourquoi est-ce que les gens lisent ou ne lisent pas. Mais,
non, surtout j'en sais rien. En fait.
Voilà. Mais ça, on peut faire semblant. C'est pas, on peut énoncer des théories même sans ouais. certitude. Certains font profession.
On a dit qu'on parlait pas d'Alain Finkielkraut aujourd'hui.
On va arriver pour la fin, ça. Simplement, donc, puisque le lecteur est une lectrice, donc c'est une lectrice qui est la destinatrice de votre livre. Mmh. Donc vous adressez à une femme qui est pourvue d'une chose étrange, à la fois sympathique et parfois et souvent assez molle, qu'on appelle chérie, sans E, et qu'il s'agit de faire lire. Mmh. Et donc vous avez, alors parce que je tiens à le souligner, hein, le livre est écrit avec une forme de je pense que c'est un livre que vous avez écrit assez rapidement, c'est un livre qui est...
Comment ça, assez non, rapidement mais... J'ai galéré comme tout le monde.
Je n'ai pas que vous avez souffert, mais simplement on sent qu'il y a un entrain, une vivacité, oui. Et puis des références extrêmement contemporaines sur le tournant de fin 2016, début 2017.
Oui, tout à fait.
Donc on sent bien qu'effectivement, voilà, le livre a été écrit, il y a une vraie gaieté, il y a beaucoup de drôlerie. Et dans ce livre, en fait, vous alternez différents chapitres qui ont tous le même but, qui est à la fois de déterminer un objectif par lequel on va réussir à faire lire les hommes. Certains de ces chapitres sont assez facétieux, on va dire. D'autres sont un peu plus sérieux. Et surtout, ils finissent tous par une petite liste de lecture dans laquelle on a quelques points d'accroche, puis aller un peu plus loin et enfin lire ensemble. Dans les premiers chapitres, vous faites un chapitre sur les livres courts, avec cette chose qui, je pense, est une idée effectivement assez importante, qui est que pour lire, c'est comme pour le sport, il faut s'entraîner. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous vous lancez dans Ulysse, bille en tête, vous pouvez y arriver. Mais vous pouvez aussi, et c'est le plus probable, de ne pas y arriver. Et ça, je pense que c'est une idée importante, parce que pendant tout le livre, je voudrais que vous insistiez là-dessus, et vous mettez explicitement dans la filiation de Pénac, c'est-à-dire à la fois vous passez le livre à dire à quel point lire peut changer la vie, est une chose importante, mais aussi on peut ne pas lire.
Alors, déjà, lire peut changer la vie, non. Enfin, moi, j'y crois pas, j'y ai jamais cru. En revanche, ça peut la rendre beaucoup plus acceptable, supportable.
Mais ça la change, ça.
Je ne crois pas aux gens qui... Enfin, je ne crois pas. Il y en a, donc c'est des contre-exemples. En tous les cas, moi, je ne me vois pas lire Modiano et partir vivre à Rodrigue avec 3 chèvres et 2 chiens. Je le sens pas comme ça. Pas Modiano, le Clésio, ouais. Merci. Sur les formats courts. Je parlais marathon ce week-end avec quelqu'un. Et de fait, pour faire un marathon, surtout à l'âge canonique que j'ai atteint, il faut beaucoup s'entraîner. Et il ne faut pas partir tout de suite en se disant « Tiens, je vais sortir courir, je vais faire 20 km histoire de me mettre en jambes. » Non, parce que là, ça va être très, très, très difficile. Et la lecture, c'est pareil. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui ne lit pas devant Guerre et Paix, devant les Karamazov, devant l'Idiot, devant Ulysse, en espérant qu'il va en arriver au bout. Parce que En soi, la taille est décourageante pour quelqu'un qui est non lecteur. Et il y a plein de très courts formats qui sont des chefs-d'œuvre authentiques. Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor, 60 pages, 70 pages peut-être. Hors d'autres, Donald Westlake, 150, 160. L'or et l'obscurité, très récemment, chez Mark Yalley, sur la boxe, 150, pareil. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages qui peuvent être abordés par des non-lecteurs, sans avoir ce côté « Mon Dieu, tu m'as offert un truc énorme, je ne vais jamais y arriver. » Et je pense que le pire que peut faire une femme à un homme, c'est lui offrir Belle du Seigneur, en lui disant « Tu vas voir, ça m'a bouleversé, tu vas adorer. » Et là, je crois que c'est... Alors, à la fois, c'est très très gros, et à la fois, c'est un livre dont je ne suis pas sûr, et pourtant Dieu sait que je m'oppose aux idées qu'il y aurait une littérature pour les femmes et une littérature pour les hommes, je trouve ça tout à fait débile. Mais je ne suis pas sûr qu'il fasse le même effet sur un homme que sur une femme. Voilà. Et donc je pense qu'il faut commencer par des formats courts, il faut entraîner les gens. On le fait à l'école, et il n'y a aucune raison que pour des non-lecteurs, on ne le fasse pas. À l'école, les premiers ouvrages qu'on fait lire aux enfants, ce sont des tout petits ouvrages. Mmh. Voilà. Et je pense qu'il faut faire pareil.
Avec cette autre idée qui m'échappe au moment où j'essaie de l'énoncer, mais ça va me revenir.
On a le temps. Hein.
Oui. Mais qui est, vous y revenez plusieurs fois, le destin. Comment faire en fait pour que le destin d'un livre offert ne soit pas d'aller rejoindre la poussière qui déjà recouvre les autres livres offerts.
Non, mais on a tous des livres qu'on nous offre et oh merci. Ah, j'ai adoré, ça me fait plaisir, tu peux pas savoir. Et on sait qu'on va pas le lire, même quand on est grand lecteur, même quand on est très grand lecteur. Donc pour un non-lecteur, lui offrir un livre, ça devient presque... pour un non-lecteur, ne pas lire, je dirais pas que c'est une souffrance, c'est pas vrai, mais c'est quelque chose de complexe, parce que la lecture est tellement valorisée dans notre pays, elle a tellement un rôle social extrêmement important, l'écrivain est tellement piédestalisé... même s'il gagne 3 francs 6 sous, il meurt de faim, il suffit qu'il dise qu'il est écrivain dans une soirée et d'un seul coup il a un statut social, quand bien même il aurait publié 3 livres à compte d'auteur, que ne pas lire, c'est se sentir un peu exclu de quelque chose qui est important dans la société. Donc c'est très difficile de se dire que ce n'est pas un échec et qu'on peut y revenir et qu'il y a toujours un moment pour lire. Et offrir un livre, juste offrir un livre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'effectivement, il va aller sur la pile et il va prendre la poussière. Voilà. Donc, il faut accompagner le cadeau.
Oui, c'est-à-dire que les conditions de la transmission, et alors c'est ce que vous décrivez de façon plus ou moins humoristique dans le livre, mais les conditions de la transmission font l'efficacité de la transmission.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il faut, il faut que le lecteur, enfin, celui dont on veut faire un lecteur, perçoivent chez celui qui l'offre quand même le désir que le livre soit lu. Et que cette donnée-là est
c'est très compliqué parce qu'il faut, qu'il sente ça et en même temps il ne faut pas que ce soit une obligation de lecture. Parce que si c'est une obligation de lecture, il va se mettre en travers.
Parce que vous l'évoquez au travers de la figure du dîner mondain, mais ces deux mondes qui se regardent du lecteur et du non-lecteur fait que pour le non-lecteur, comme vous le dites, la force sociale de lecture... Alors, c'est mieux placé que moi pour le dire, mais peut-être spécifiquement en France. Je ne sais pas si les autres pays européens ou autres ont ce même poids social du livre. Mais effectivement, il y a toujours un moment où la conversation finit par rouler sur la lecture. qu'on soit confronté d'ailleurs à des gens qui aient lu ou non véritablement les livres, hein. Il y a aussi une habileté sociale qui consiste à savoir parler des livres qu'on n'a pas lus. C'est même pour certains une profession.
On a dit aussi qu'on ne parlait pas de certains critiques littéraires.
Mais ça, voilà, ça c'est extrêmement important. Et je pense que pour glisser, vous avez un très beau chapitre sur la librairie. C'est évident que
vendez mon livre, ça m'a paru une bonne idée de dire du bien de vous, parce que sinon c'était difficile.
C'est périlleux, parce que vous savez que les livres sur la librairie, ça ne se vend jamais.
Oui, jamais.
C'est une règle.
Absolument jamais.
Une règle absolue. Avec l'idée, effectivement.
Je pense que les libraires détestent les livres sur la librairie, en fait. Bah, ce qui est normal. Hein.
Oui, c'est pas. On a d'autres livres pour se rattraper, donc c'est pas grave. Hein. Mais ceux-là, on les présente quand même, hein, rassurez-vous. Mais simplement pour cette question, pour revenir à ce point-là, effectivement, nous qui sommes toujours déjà dans le milieu du livre, on a probablement tendance à surestimer l'effet de crainte, de terreur, de violence sociale, pour employer ce vocabulaire-là, qui est fait aux non-lecteurs.
Mais écoutez, dans un dîner, il y a deux façons d'être en mort sociale. La première, c'est au moment de la présentation, vous pouvez être la personne la plus fabuleuse que c'est avec des gens que vous ne connaissez pas, évidemment, pas en famille, pas avec des amis. Vous êtes dans un dîner mondain, c'est-à-dire un truc où vous êtes obligé d'aller, ça vous fait suer, mais en plus, tout le monde se présente, tout le monde commence à se présenter par sa profession. C'est la première chose qu'on dit. Bonjour, machin, et deux minutes après, je suis prof, machin. Celui qui dit je suis chômeur, il disparaît de la soirée, quasiment. S'il n'y a personne qui est là pour faire l'effort de... Il disparaît de la soirée, il a... pas d'existence. L'autre façon, c'est quand on parle de culture et que le mec dit « je ne lis pas ». Et pareil. D'un seul coup, c'est comme s'il n'était plus du tout intéressant. Alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. Oui. Il y a des très grands lecteurs, vous en connaissez comme moi, qui sont quand même des abrutis finis. Prétentieux, désagréables. Inversement, il y a des gens qui ouvrent jamais un livre, qui sont des êtres humains formidables. Donc... cette question du dîner mondain qui a poussé Pierre Bayard à écrire ce livre magnifique chez Minuit qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus », qui est un livre formidable, qui a poussé ce dessinateur de BD, je ne sais plus lequel, à faire ce truc hilarant où il résume en une planche « Madame Bovary, guerre et paix », voilà, ce qui est très drôle. Ça correspond à une réalité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de parler, de donner des codes. Et quand quelqu'un se met à lire, il commence à avoir ses codes et il peut en parler. Sinon, il se tait, enfin, il ne parle pas.
Avec cette idée, pour revenir à ce point-là, qui est, alors dans les astuces que vous évoquez, vous l'avez dit en tout début d'intervention, la question des enfants est importante. Et elle est importante à double titre. Elle est importante pour les enfants. Mmh. Ça, vous l'avez un peu évoqué, effectivement. Et l'un des bons pièges à faire à nos conjoints, c'est effectivement de les contraindre à cette chose qui peut à la fois être épuisante, mais qui normalement, nous en sommes récompensés, qui est le fait de lire des histoires aux enfants avec, et cette chose, je pense, c'est très importante, même quand ils savent lire.
Surtout quand ils savent lire.
Parce que c'est évident de lire des albums quand les enfants sont très petits.
Mais ce sont les femmes qui le font.
Et
pour l'essentiel.
Pour la plupart, pour celles qui n'ont pas des maris libraires. Et. Mais qu'effectivement, qu'est-ce qui se joue selon vous dans cette lecture justement à l'enfant qui sait lire, et quelle est la pourquoi est-ce qu'il faut lire des histoires aux enfants?
Si on reparle des études, il y a un truc qui est fabuleux chez les adolescents qui lisent. Le moment qu'ils plébiscitent absolument pour lire, c'est le soir avant le coucher. C'est exactement le moment avec lequel on les a bercés quand ils étaient petits, c'est-à-dire c'est exactement le moment qu'on leur consacrait à leur raconter des histoires. Ce qui se joue, c'est nos vies sont très denses, nos gamins sortent de l'école vers 18h, 18h30, après l'étude, on les récupère, il y a le bain, il y a les devoirs, il y a le repas, tout ça est source de tension, on va dire, parce qu'il faut qu'ils soient couchés à 20h30, à 21h maximum, et qui sont des moules qui veulent rester 2 heures dans un bain, ne pas manger parce qu'ils n'aiment pas les haricots verts, donc tout ça est source de tension, et d'un seul coup, il y a un moment magique, une bulle, un moment privilégié, ils sont couchés et c'est la lecture du soir. C'est le moment familial, à mon sens, de la soirée, c'est-à-dire que c'est vraiment ce moment-là où on est avec eux, vraiment avec eux et pour eux. Si on arrête quand ils savent lire, effectivement, certains d'entre eux vont continuer à lire parce qu'ils ont pris le virus, mais d'autres non. Alors que si on continue ce moment après la lecture, si on en fait un travail en commun en plus, c'est-à-dire que si eux-mêmes prennent le livre, commencent à lire, d'abord on les aide à devenir des lecteurs, parce que toute personne qui lit à voix haute devient un meilleur lecteur. C'est-à-dire que la lecture à voix haute est un élément déterminant de l'apprentissage de la lecture courante dans sa tête. Et en plus, on crée un lien qui devient de plus en plus intéressant parce que, jusqu'au jour où ils vous virent de leur chambre en vous disant « Non, là, franchement, ça va pas être possible », on échange sur les livres et on grandit avec leurs livres. On va commencer, comme tout le monde, sur Nadja, Ungerer, Ponty, qui sont d'ailleurs tous les trois des génies, des albums, puis après on va passer à des toutes petites histoires, et puis après à des trucs comme Fantomette, etc. Et puis,
Très bel hommage à Fantomette. Hein, qui est un...
Oui, c'était la femme de ma vie, mais, mais elle n'existait pas et elle portait un juste au corps.
Et un loup.
La moitié de sa vie, elle l'a passée en juste au corps avec une cape. ce qui en disait long. Et ensuite... on en arrive à lire ensemble Harry Potter, c'est-à-dire qu'on en arrive à lire ensemble une énorme saga. Et là, des gamins qu'on a attrapés comme ça, on en a fait des lecteurs à vie. Et j'ai tendance à penser que si un homme qui ne lit pas beaucoup fait ça, lui aussi, il s'habitue et il s'apprivoise à la lecture et qu'on peut en profiter pour y laisser d'autres choses. Voilà. Parce qu'il apprivoise une lecture à voix haute, il apprivoise ce moment et il l'associe à un moment privilégié avec ses enfants.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire ce que vous essayez de faire, qui est de tenter malgré tout d'expliquer l'intérêt de la lecture. C'est-à-dire que les enfants, comme, par ce biais-là, acquièrent cette chose qui est que...
C'est le rôle de l'école. En fait, moi je ne suis pas prof. Le rôle de l'école, c'est de donner des apprentissages aux enfants. Alors moi, j'adore quand on reproche à l'école de ne pas faire de lecture plaisir pour les enfants, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Oui. On lui demande d'apprendre aux enfants un socle commun de connaissances. Si on associe le livre à ça, moi je suis horrifié en librairie quand je vois des gamins qui se précipitent sur les rayons bande dessinée, manga, etc. Et derrière la mère ou le père qui dit « Ah non, j'ai dit que je t'achetais un vrai livre ». Alors là je me dis pour en faire un non-lecteur, c'est bien là, c'est bien parti. Si on n'associe pas le plaisir total à la lecture, on ne fait pas de lecteur. Parce qu'il n'y a aucune raison de s'emmerder à être enfermé, asocial, alors qu'il fait beau dehors, si on n'y prend pas de plaisir. Enfin, si, mais à ce moment-là, ça devient du masochisme, et ça n'a plus rien à voir avec, la lecture.
Même si vous avez à un moment, cette phrase, vous évoquez donc les moyens douteux par lesquels il serait possible de faire lire des ouvrages.
J'ai refusé de faire un chapitre sur le chantage affectif.
Voilà, donc il n'est pas affectif, il est donc sexuel.
Oui. Mais il valait mieux qu'il soit sexuel qu'affectif. C'est quand même beaucoup moins...
C'est moins pervers.
Pervers, voilà.
Mais ce chapitre se clôt presque par cette phrase qui est « Lire est important, mais jouir l'est plus ».
Oui.
Même si les deux ne sont pas...
Plein de choses sont beaucoup plus importantes que lire.
Exactement. Mais ça, je pense que c'est important aussi, effectivement, vous le rappelez régulièrement, c'est que, certes...
Non, mais vous avez parlé de la filiation avec Pénac. Le jour où Daniel Pénac a osé écrire, alors 25 ans avant moi, hein, 30 ans peut-être même, ouais, parce qu'il est très vieux, Pénac. Il est vieux. A osé écrire, il va être content, c'est enregistré en plus. A osé écrire, on a le droit de ne pas lire, dans les droits sacrés du lecteur, et le droit d'abandonner un livre qui ne nous plaît pas, il a débloqué quelque chose, il a déverrouillé quelque chose pour des générations entières de lecteurs, c'est-à-dire que, et même, je crois, pour le monde du livre, c'est-à-dire que ce monsieur a contribué à démocratiser la lecture bien plus que tous les plans lecture que les ministères de la culture ont pu faire pendant des années. Il a totalement démocratisé l'acte de lire en faisant quelque chose de simplement joyeux. Voilà.
Alors justement, puisque vous parlez de la joie, on a évoqué tout à l'heure parlons de livres.
Vous avez vu comment j'ai évacué la partie sur la jouissance, parce que c'est facile à écrire, mais c'est très difficile d'en parler.
Oui, évidemment. C'est pour ça, on l'évoquait de façon périphérique, c'est pour inviter les gens à lire ce livre et à savoir quels sont ces moyens douteux par lesquels vous ferez lire votre conjoint. Vous avez un chapitre qui est une sorte d'ode au mauvais genre. On sait que vous êtes un lecteur. passionné de mauvais genres, de romans policiers, plutôt dans son versant donc hard-boiled, dit polar en français, mais aussi de science-fiction. Et entre autres, vous évoquez, vous le passez à plusieurs reprises, je voudrais juste qu'on s'y arrête un petit peu pour prendre un cas particulier. Vous êtes un très très grand défenseur de quelqu'un qui, alors maintenant les choses ont un peu changé, mais qui a longtemps été tenu en France pour... un auteur de best-seller, adapté au cinéma, et au final pas du tout un écrivain, mais quelqu'un presque comme on pourrait voir Dan Brown aujourd'hui, alors que c'est probablement, et vous le dites, l'un des plus grands écrivains américains, qui est Stephen King.
Oui.
J'aimerais bien qu'on s'arrête, que vous évoquiez un petit peu votre passion de King, parce qu'effectivement, ce n'est pas une parole qu'on entend souvent émise d'une instance légitime, pour vous nommer comme ça. Et je pense que c'est important, parce que
Il existe très peu, enfin... Les grands écrivains américains, je vais être définitif et c'est sans doute très faux, il faudrait corriger et on aurait tous des avis différents. Mais pour moi, les grands écrivains américains aujourd'hui, c'est Cormac McCarthy, Russell Banks, Frot à l'époque où il écrivait encore, John Edgar Wyman et au-dessus de tout ça, à mes yeux, Stephen King. Mais Stephen King, c'est le malentendu complet parce que en fait, Stephen King n'a jamais écrit de roman fantastique. Il décrit l'Amérique totalement. C'est une sociologie de l'Amérique.
Ce qui est un peu l'objet du fantastique aussi. Enfin,
ouais,
c'est un autre.
Ouais, ça c'est exactement. C'est dans Caillois d'ailleurs. Il décrit l'Amérique telle qu'elle est, et l'irruption du fantastique est un espèce de prurite, comme dans Dracula d'ailleurs, de Stoker, qui fait tomber tous les masques. C'est-à-dire que là, il ne peut plus y avoir de masque, même si ça l'éclate le fantastique et s'il serait pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Et donc, il a une description de l'Amérique d'une violence qu'il est un des très très rare à avoir. L'Amérique de Stephen King est beaucoup plus dure, beaucoup plus violente que King. Et quand on veut comprendre ce qui s'est passé avec Donald Trump, il faut lire Stephen King. Il faut lire les petites villes de province avec les femmes qui ne travaillent pas, s'ennuient chez elles, deviennent alcooliques, les parents qui boivent et tapent sur les enfants, l'inceste, le viol, la violence. C'est ça Stephen King. Et ça a toujours été ça. Et en plus, il se trouve que c'est un très grand styliste, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, qui a été capable, notamment dans l'écriture, son livre sur l'écriture,
très, très beau livre.
D'expliquer comment il travaillait. Et là, c'est le livre qui a changé la vision en France de Stephen King, parce que d'un seul coup, on s'est rendu compte que ce gars que tout le monde méprisait était un grand écrivain. Et moi, je crois aujourd'hui, non, il doit me manquer un ou deux encore. Mais j'ai quasiment tout lu de ce qu'il a fait. Il y a des phases. Il a des phases très créatives. Il a des phases un peu moins bonnes. Comme tous les écrivains très productifs, il n'est pas génial à chaque fois. Mais dedans, il y a des chefs-d'œuvre absolus. Le Fléau, ça. Dolores Claiborne, Misery.
Et vous
La petite fille qui aimait Tom Gordon.
Peu connu, qui est Nuit noire, étoile morte.
Nuit noire, étoile morte. Alors, Nuit noire, étoile morte, c'est un recueil de 4 nouvelles. Il y en a 2 qui sont fabuleuses, fantastiques, terrifiantes. La première, c'est une femme écrivain qui fait des tournées, parce qu'aux États-Unis, les écrivains ont la chance d'avoir des clubs de lecteurs et de faire des tournées et d'être payés pour faire des tournées. Donc, elle fait des tournées. Et en rentrant d'une de ces tournées, elle tombe en panne. Elle est battue, violée, sauvagement, laissée pour morte dans un espèce de trou dans la terre. Elle en sort et elle se venge. Et ce qui est fantastique dans la nouvelle, c'est que sa vengeance est aussi impitoyable que l'a été ce qu'on lui a fait. C'est-à-dire que évidemment, c'est elle qui a été agressée, mais la violence qu'elle a en elle explose d'un coup et elle se révèle d'une violence terrifiante. Et la deuxième, qui est ma chouchoute, c'est un gars qui va très mal. Il vient d'apprendre que sa femme avait un cancer incurable. Son fils se drogue, sa fille part en vrille à l'école, il a perdu son boulot. Il va perdre sa maison et il passe au bord de l'autoroute. Alors, si vous êtes allé aux États-Unis, ce qui est fascinant dans les autoroutes, c'est que c'est rempli de centres commerciaux. C'est comme chez nous, mais en pire. C'est-à-dire que comme si tous nos centres commerciaux autour des ronds-points, là, s'étaient multipliés à l'infini. Donc, c'est très laid. Et là, il y a un gars qui a une roulotte avec « Venez tenter votre chance, la bonne fortune, etc. Si vous me battez, votre vœu sera réalisé. » Il me semble que c'est un jeu de cartes ou de dés, je ne sais plus. Et le gars l'accueille, il paye sa partie, il joue, il gagne. Et puis, il rentre chez lui. Et à partir de là, toute sa vie s'inverse. Toute sa vie s'inverse. Sa femme guérit miraculeusement, son fils se reprend, arrête la drogue, reprend des études et part faire des écoles de commerce. Sa fille qui partait en vrille à l'école trouve une passion, je ne sais plus laquelle, et va dedans. Il retrouve un boulot mille fois mieux que ce qu'il avait, avec une progression, une possibilité de carrière fantastique. Et en même temps, son cher voisin, et ils ont des très bonnes relations de voisinage, hein, ils s'invitent à dîner et tout, commence à péricliter. Mais vraiment, il périclite doucement. Sa fille, tout allait très bien, et puis lui, voilà. Sa fille meurt dans un accident de voiture. Voilà, c'est l'horreur chez le voisin. Et il comprend qu'il a échangé sa vie contre celle de l'autre, et que c'est ça qu'il a gagné. Et ce qui est fantastique dans la nouvelle, parce que ça reste assez classique, c'est que la fin. Stephen King, le seul défaut que je lui reconnais parfois, c'est de chercher à faire absolument des happy ends là où parfois il faudrait être absolument destructeur. Et là, justement, il échappe à ce défaut, et ça se termine par le gars se dit. Oh, je devrais quand même me sentir vachement mal, hein, parce que j'ai compris ce qui s'était passé avec mon voisin, j'ai compris qu'on avait... Mais en fait, non, ça va bien, moi. Vraiment, ça va bien. Donc, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est sa vie que j'ai échangée, c'est pas la mienne. Donc non, en fait, ça va. Voilà, et ce recueil est magnifique. Magnifique.
Et dans l'ordre des joyeusetés aussi, vous évoquez en passant ce joyau noir que les libraires et les lecteurs de polar se recommandent entre eux, qui est le Jeté d'Horace Suarez de Robin Cook, qui est un texte à la fois un peu connu et quand même, je pense au final, je ne sais pas combien Rivage en vend tous les ans, mais je ne pense pas que ce soit
c'est pas une énorme vente.
Des milliers, et qui est pareil, un livre, l'un des plus grands livres sur les années 80.
C'est le grand polar des années 80, qui ont été très productifs.
C'est l'Angleterre thatchérienne dans son chef-d'œuvre.
Mais, je le dis pour si certains d'entre vous voulaient l'acheter, il faut quand même avoir le cœur bien accroché et avoir un peu l'habitude du roman noir, vraiment très, très noir. Parce que celui-là, il n'y a aucun espace de lumière. Tout est terrifiant, triste, malheureux. La jeune femme était une immigrée, donc c'est très actuel. Elle a été massacrée, tout le monde s'en fout. Lui, il se prend de passion pour elle, il en tombe amoureux d'ailleurs. Il tombe amoureux de cette femme morte, il la venge. Mais même sa vengeance est sordide. Donc c'est un livre assez sordide. Mais c'est un très grand texte. Alors là, je ne l'ai pas bien vendu, hein. Je sais, personne ne va l'acheter. Non, c'est un immense texte. C'est sans aucun doute... Manchette disait que c'était un texte immense. Mais il avait raison, c'est un texte immense.
Oui, il s'est peu trompé sur cette
Assez
lecture.
Peu, très peu.
Pour revenir à des choses un peu plus joyeuses, alors on va passer sous silence le chapitre sur la belle-mère qui a un côté assez années 50.
Mais oui, complètement. Mais ça, c'est
très bien.
C'est de la caricature.
Exactement, mais c'est ça qui est parfait.
On croirait un vieux film avec Louis de Funès et Claude Jansac.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est très drôle. Ça.
Bernard Blier. Enfin, ouais. On imagine un truc effectivement assez années 50, un bon de la noix comme on les aime. Mais pour revenir à deux choses dans les. Il me semble que vous montrez que le lecteur, une fois qu'il est lecteur, il se crée un phénomène qui est une sorte de confrérie, et qui est une double confrérie, qui est une confrérie entre lecteurs, et qui est aussi une confrérie dans son rapport aux auteurs. Et cette idée de la confrérie, elle vient s'articuler avec une autre idée par laquelle vous concluez avec un beau chapitre sur vos parents et sur comment vous-même vous êtes devenu le lecteur, on le voit assez considérable que vous êtes, qui est l'idée que tout ça est affaire de dette, de transmission, toujours repris, toujours recommencé. C'est-à-dire qu'on hérite de quelque chose qu'on veut transmettre. Alors on peut imaginer que c'est aussi articulé à votre rapport au judaïsme, dans lequel cette question de la transmission du livre, cette question, enfin qui est une question importante, est extrêmement présente. Mais cette idée de la transmission, qu'elle se fasse par les amis, par les conjoints, par les bibliothèques ou par les librairies, au final, c'est le cœur de la lecture.
Ah oui, non, mais faire lire quelqu'un, c'est, je le dis à un moment dans le bouquin, ce n'est qu'un acte d'amour, c'est uniquement ça. C'est que qu'on soit libraire ou bibliothécaire ou parent, ça n'est que ça. Alors ça peut être un acte d'amour pour la personne qu'on fait lire ou ça peut être un acte d'amour pour le livre qu'on fait lire ou pour le métier qu'on fait. Mais ça n'est que ça. Cette transmission, elle est vitale. Si le rôle des bibliothèques, le rôle que jouent les médiathécaires est absolument vital dans ce pays. C'est-à-dire que C'est Lincoln qui disait « Vous croyez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ». Je pense qu'on peut dire exactement la même chose avec les bibliothèques. Vous trouvez que ça coûte cher une bibliothèque, bah, essayez l'ignorance. Quand il y a eu des émeutes, les grandes émeutes, là, les gamins ont brûlé la bibliothèque de Villiers-le-Bel. Ce qui est quand même tout un symbole à la fois de ce qu'incarnait le livre et la bibliothèque pour eux. C'est-à-dire un lieu dont ils se sentaient exclus. Donc ça, ça n'allait pas. Mais ça donnait aussi l'idée de ce que représentait malgré tout le livre,
même en négatif,
malgré l'idée de leur exclusion. Et honnêtement, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était une grande lectrice, qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres à lire. Tout le monde n'a pas cette chance. Il y a une inégalité familiale. Il y a une inégalité des bibliothèques familiales qui est terrible. Et la bibliothèque, c'est le lieu qui compense. Et la librairie, c'est le lieu du passage, c'est le lieu de la médiation, c'est un lieu qui travaille beaucoup sur la nouveauté, mais beaucoup moins que ce qu'on pense.
Ah oui, la question
c'est,
du fond.
Voilà, c'est pour le coup un lieu qui vend beaucoup d'auteurs qu'on ne lirait plus. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de bibliothécaire, il n'y aurait plus Emmanuel Beauve, il n'y aurait plus Henri Calais, il n'y aurait probablement plus Alexandre Vialat, il y aurait... C'est les libraires qui passent ça. C'est les libraires qui font découvrir ça.
Guérin, Forton, tout cela.
Voilà, c'est les libraires qui font découvrir ces gens-là. Et donc, sans médiation, il n'y a pas d'accès aux livres. Ce n'est pas possible. Il y a quand même des autodidactes qui y arrivent, mais il y a toujours un moment où on va devant le médiateur. Un autodidacte, il va avoir des trous dans sa culture. Contrairement à quelqu'un qui fait des études de lettres, il va avoir des trous entier, mais quand il ira chez le libraire, il écoutera ses conseils aussi et il comblera les trous, les manques, les vides, comme ça.
Et inversement, chez l'autodidacte, une voracité
totale. C'est-à-dire que quand il découvre un auteur, il le lit en entier. Quand il découvre un genre, il descend le genre. C'est impressionnant, ça, pour le coup. Quand on a un client, on est content quand on a un autodidacte et qu'on est libraire. Un autodidacte qui veut lire, qui a un peu de moyens et on est libraire et qui découvre votre rayon, on est content. On sait qu'on va tout lui donner. Ah, parce que là, j'ai pas vendu depuis 3 ans et demi, mais très bien. Il est formidable. Voilà. Donc, le rôle du médiateur est essentiel, mais tout le monde n'a pas la chance que ce soit ses parents. Voilà. Et donc, le rôle du libraire et du bibliothécaire, c'est de compenser aussi quand il y a une impossibilité familiale. C'est pour ça que ces lieux doivent être très ouverts, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens aient peur d'y rentrer. Il faut surtout pas. Il n'y a rien de pire que les libraires. Il y en a beaucoup à Paris, je ne vais pas dire ailleurs.
Non, mais c'est
passé. Vous rentrez, ils disent pas bonjour, vous demandez Musso, ils vous regardent comme ça. Oui, mais à bas. Voilà, il y en a.
Avec ce que vous dites, vous évoquez simultanément la question des bibliothèques que vous venez de faire et puis celle des classiques. Et de la même façon que le travail de médiation par rapport aux classiques de la littérature, il est, comme vous dites, de créer une familiarité. C'est-à-dire qu'effectivement, de même qu'il faut désacraliser la lecture et pas en faire quelque chose d'un espèce d'objectif inatteignable par lequel tout est résolu, de la même façon, les classiques, il faut, dans le cadre de la médiation, faire en sorte que le classique, ce ne soit pas le moment indépassable et que si vous n'y comprenez rien, c'est que vous êtes un abruti et qu'il y a toujours des classiques par lesquels on peut rentrer.
Moi, j'ai jamais dépassé la page 320 du côté de chez Swann. Je crois que le moment où il s'endort dans son fauteuil, je m'endors avec lui, mais lui, il se réveille et moi pas, en fait. Et donc, j'ai jamais, et c'est une douleur presque, hein, j'ai pas lu La recherche du temps perdu. Bah oui, je suis d'accord. Je sais. Mais je sais aussi qu'un jour, ça va se débloquer. Je sais aussi qu'un jour, pof, clac, ça va se débloquer. Et je le dirai. Mais pour l'instant, voilà. Et tous les classiques, je crois, quand le passage du temps s'est fait, ils ont vraiment mérité d'être des classiques. Vraiment, tous. Que ce soit Dumas, que ce soit le grand 19e français, Jacques le Fatalisme et son maître au 18, les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Mais quand vous faites les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau en 3e ou en 2e, franchement, c'est un moment difficile dans votre vie d'élève. C'est pas vraiment pas un moment sympathique, chaleureux où vous vous éclatez, quoi. Et en fait, la littérature classique, l'école est là pour l'apprendre, encore une fois. C'est son rôle de l'apprendre. le lecteur qui veut y prendre plaisir doit traiter le classique exactement aussi mal qu'il traite le reste. C'est-à-dire de la même façon. Il prend le rouge et le noir, ça lui plaît pas, il le repose. Il ira à la Chartreuse de Parme, qui est d'ailleurs bien meilleure que le rouge et le noir, mais bon, c'est... il prend Madame Bovary, il s'ennuie avec Emma, que moi je considère être... Ça doit être le livre que j'ai le plus lu avec Le ralvissement de l'Olvichstein, je crois, Emma Bovary. Mais je comprends très bien qu'on s'ennuie. Je comprends très bien qu'on s'ennuie et qu'on n'y trouve pas. Et il ne faut pas révérer le livre. Il ne faut jamais révérer les livres. Alors, ce qui est fabuleux avec les gens que j'aime comme écrivains classiques, c'est que ce sont sans doute mes meilleurs amis, qu'on se voit assez régulièrement et qu'en plus ils ont le bon goût d'être morts et d'être toujours d'accord avec moi. Et ça, c'est très très bien. Je les interprète exactement comme je veux. Voilà, si j'ai envie de considérer que Un roi sans divertissement, par exemple, est un livre absolument fabuleux sur comment un homme qui est trop grand pour le monde dans lequel il vit est obligé de quitter le monde parce que les seuls moments où il vit sont ceux qui sont paroxystiques. J'ai le droit, alors que dans tout ce qu'a écrit Giono sur Un roi sans divertissement, il n'y a absolument jamais cette idée-là. Jamais. Il n'en parle jamais. Et pour moi, c'est comme ça que je prends le livre. Donc, mais les livres sont d'excellents amis, hein, en général. Vraiment. Hein. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Il y en a qui sont un peu plus barbants que d'autres, mais dans nos amis aussi, il y a des gens, on est amis avec eux depuis 20 ans, on ne sait pas pourquoi, ils sont chiants, on a évolué différemment. Les livres, c'est un peu pareil. Mais ils sont présents, tout le temps.
Et pour conclure, justement, vous évoquiez à la fin, vous vous opposiez un peu à l'idée selon laquelle les livres pouvaient changer notre vie, ce qu'on peut comprendre. Néanmoins, ce que vous dites, c'est que sans changer notre vie, ils ont un pouvoir absolument considérable et décisif qui est celui de la consolation. Oui. Sachant que l'idée de consolation est une idée très belle. Je recommande par ailleurs, il y a un très beau livre de Michael Fessel sur la consolation qui explique à quel point c'est l'inverse du déni eu égard à la souffrance et comment est-ce qu'on est capable de supporter la souffrance en l'acceptant. Et que c'est une idée, si on veut vivre avec le monde, il faut savoir se consoler plutôt que de faire comme si tout allait bien. Et en revanche, voilà ce que vous dites, c'est qu'il y a dans le livre un pouvoir de consolation que vous avez éprouvé.
Oui. Quand vous perdez quelqu'un, ce qui est absolument atroce, quand vous l'aimez en tout cas, parce que quand vous ne l'aimez pas, a priori, bon. Le moment qui suit l'enterrement est pour moi un des pires moments qu'on peut vivre dans une vie. C'est pas, il y a la mort qui est terrifiante, mais qui est une nouvelle qu'on vous donne et qui vous tape sur la tête, qui est terrifiante. Et puis après, il y a l'enterrement. La nouvelle que vous avez prise sur la tête, elle a été mise un peu à distance. Et après, vous rentrez chez vous et il n'y aura plus jamais personne, plus jamais cette personne, nulle part, là où elle était avant. Plus jamais. Vous ne la verrez plus jamais, vous ne la croiserez plus jamais. Elle n'est plus là. Même physiquement, même morte, elle n'est plus là. Et moi, j'avais toujours, dans ces circonstances, j'ai toujours un livre, dans ces circonstances très dures. Parce que ça ne veut pas dire que le livre, vous lisez le livre et puis ouais, ça va mieux. Hein. Mais non, pendant que vous lisez le livre, vous faites une parenthèse dans la souffrance qui fait que quand vous sortez de la parenthèse, ça ne va pas beaucoup mieux. Mais au moins, cette parenthèse, elle vous a fait reprendre votre souffle et être capable de commencer à travailler sur autre chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Hein. C'est très, très personnel. Là. Et ce pouvoir de consolation, il ne marche pas avec le cinéma, pas du tout. C'est-à-dire, je peux m'asseoir dans une salle de cinéma, je ne vais absolument pas voir ce qui me passe devant les yeux, mais je ne vais absolument rien comprendre, rien voir, rien... Il ne marche pas avec les gens qu'on aime, parce qu'en général, quand on enterre quelqu'un qu'on aime, on est entouré de gens qu'on aime qui ont eux aussi perdu quelqu'un qu'on aime, et donc on pleure ensemble, en fait. Donc en termes de consolation, c'est quand même assez limité. Et il fonctionne avec le livre. C'est-à-dire qu'avec le livre, pendant un court moment, le moment de la lecture, on arrive à s'extraire de la douleur. Et quand on y revient, la douleur, elle est toujours là, parce qu'elle est patiente, en général. Le fait de l'avoir mis à distance suffit pour l'interpréter différemment. Voilà. Mais c'est très personnel, ça. Hein.
Oui, c'est pas. De toute façon, c'est le.
Mais je pense que le livre console. Vraiment. Je pense que la lecture console. Je pense que. Ouais, j'en suis sûr.
Alors, pour finir, deux questions auxquelles qui n'ont pas été préparées, au sens où est-ce que vous auriez deux lectures à suggérer, qui seraient l'une, on va dire, un livre que vous jugez pas forcément classique, mais relatif, enfin, qu'on va appeler nous du fond, méconnu, et une lecture récente de vivant. Qui selon vous mérite d'être plus lu peut-être.
Il y a un livre de Selma Lagerlöf, qui est un très grand écrivain dont tout le monde pense qu'elle a juste fait Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, alors qu'en fait c'est bien plus, enfin d'abord celui-là est formidable et c'est bien plus important que ça, son œuvre, qui est en stock cosmopolite, qui s'appelle L'Empereur du Portugal. Alors j'espère qu'il est encore disponible. C'est l'histoire d'amour d'une fille pour son père qui lui a menti toute sa vie, toute une partie de sa vie, en lui faisant des choses complètement flamboyantes, en lui faisant croire des choses complètement flamboyantes, etc. Et notamment qu'il était empereur du Portugal, d'où le titre. Alors qu'en fait, c'est un loser, un gentil loser. Voilà. Et c'est un livre bouleversant. Je pense que c'est assez largement autobiographique et c'est totalement bouleversant. Et c'est très court. En plus, encore une fois, ça fait 160 pages, c'est très bien. Ça, c'est pour le classique, méconnu. Et alors, ça va être beaucoup plus dur pour le contemporain méconnu, mais quand même très intéressant. Ah si. En septembre de cette année, Gaël Faye a sorti un livre chez Grasset qui s'appelle Petit Pays, qui a tout écrasé, notamment toute la rentrée Grasset, qui est un très bon livre d'ailleurs, Petit Pays, très sympa. Mais chez Grasset, au même moment, est paru un bouquin de Guy Bollet qui s'appelle Fils du Feu.
Oui, tout à fait.
Qui est un livre
très étonnant.
Somptueux, écrit de façon totalement somptueuse sur un petit enfant dont le père est... Alors, ils sont immigrés, italiens, je crois, dans mon souvenir, ou espagnols, mais je crois que c'est des Italiens. Le père est forgeron, il a une forge, la grand-mère vit avec eux, la mère est une femme au foyer. Il a un frère, lequel va avoir le mauvais goût de décéder. Donc la mère va continuer à parler au frère, à mettre sa tasse, sa truc à table. Enfin, la mère va sombrer dans une espèce de forme de folie, mais qui n'est pas une, enfin, qui est une forme de folie qui est compatible avec le monde, parce que à part ça, tout le reste continue de fonctionner. C'est juste que son fils n'est pas mort. Et le père a un associé. Qui est présenté comme une espèce de Vulcain, c'est-à-dire un dieu surpuissant, tout le temps torse nu, un truc genre la pub Coca quand il faisait les vitres, pour ceux qui s'en souviennent, toujours couvert de sueur, parce qu'il travaille dans le feu, évidemment, et le gamin va comprendre qu'il est homosexuel en le regardant. Mais là, il ne mettra pas le mot homosexuel, il a 8 ans, donc il ne mettra pas le mot homosexuel. Et devant ce colloque, il va comprendre qu'il est homosexuel. Et il n'arrivera jamais, jamais, absolument jamais, à le dire à ses parents. Jamais. Et c'est écrit d'une façon magnifique. C'est une langue extraordinaire, très riche, bourrée d'adjectifs. D'habitude, j'ai horreur de ça. J'aime bien les gens qui écrivent comme Marguerite Duras. Elle entre. Il pleut. Elle se dit qu'il pleut. Elle sort. Elle sent la pluie. Elle re-rentre. Il pleut toujours. Voilà, d'habitude, j'aime ça. Mais là, le mec est riche, il est vaste, Il déborde de ce livre, et c'est un, à mes yeux, avec le Luc Lang qui était au commencement du Septième Jour, et dans un autre genre, le Negard Javadi des Orientales, c'est le grand livre de la rentrée, sauf qu'il n'a pas du tout marché, puisque Gaël Faye a laminé, enfin, je veux dire, s'il n'y avait qu'un Grasset dont on parlait, c'était Gaël Faye, quoi. Donc ça a été injuste. Et s'il pouvait avoir une petite opération de rattrapage, ce serait très bien, parce que c'est un livre magnifique. Ouais. Voilà.
Bien, merci.
Oui, je vous en prie.
Merci beaucoup pour tous ces... Alors, je ne sais pas si vous allez faire lire des hommes, mais au moins, je pense que... Voilà, donc ça ne compte pas. Vincent Monadet, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.